Eh bien, hier soir, nous avons brièvement examiné Genèse chapitre 14, ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne Melchizédek. Maintenant, nous revenons à Hébreux chapitre 7 pour apprendre comment l'auteur de cette épître a compris ces versets, comment ce qu'il a découvert lui-même dans ces versets. Hébreux chapitre 7, à partir de verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et, en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Eh bien, les premiers détails mentionnés ici viennent exactement du texte, n'est-ce pas? Son nom, Melchisédek, certes, ça veut dire roi de justice. Il est le roi de Salem, S-L-M, Shalom, c'est-à-dire de paix, oui, oui. Mais aussi, il en tire la même implication que nous avons vue hier soir dans Genèse. Melchisédek était un homme plus grand qu'Abraham, mais il n'y a pas de mention de sa généalogie. Et c'est rare chez Genèse, n'est-ce pas? Un homme comme Kedorlaomer n'a pas de généalogie parce qu'il n'a pas une grande importance non plus. Mais Jacob, ou Abraham, ou Joseph. Le texte nous enseigne non pas tout simplement quand ils sont nés, mais quand ils sont morts. Le texte nous donne leur généalogie. Mais Melchisédek, encore plus important qu'Abraham, le texte nous donne trois versets. Sans père, sans mère, sans généalogie. Pas de mention de commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce que ça veut dire donc que c'est une apparence, c'est l'arrivée pré-incarnée de celui qui devait venir comme la parole faite chair, une apparence du Fils de Dieu? Et comme j'ai mentionné hier soir, il y a un grand nombre de chrétiens à travers les siècles qui ont pris cette position. Mais le mot « semblable », il me semble, est contre cette interprétation. Verset 3, « est rendu semblable au Fils de Dieu ». Le texte ne dit pas « donc il était véritablement le Fils de Dieu ». Mais la structure de sa présentation dans le texte que Dieu nous a donné lui rend semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire, voici encore une typologie, mais pas une identité. Nous avons un homme qui était comme Abraham lui-même, monothéiste, et qui était à la fois roi et sacrificateur, qu'Abraham lui-même reconnaissait avec confiance dans El Elyon, le Dieu très haut. Et donc, Abraham lui a rendu la dîme, et Melchisédek avait béni Abraham. Mais plus que cela, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est à ce point, donc, qu'on commence à faire des liens entre Genèse 14 et Psaume 110, que nous avons examiné brièvement hier soir aussi, les seules deux places où Melchisédek se trouve dans l'Ancien Testament. Verset 4. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant, c'est-à-dire il n'y a pas mention de sa mort. Enfin, Lévi qui reçoit la dîme, là pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek alla à sa rencontre. Maintenant, il y a deux ou trois détails qu'il faut mentionner. La notion de bénir quelqu'un est un peu ambiguë. Nous disons « bénissons l'Éternel ». Ça ne veut pas dire que nous sommes plus grands que l'Éternel. Quand nous disons « bénissons l'Éternel » ou « bénis l'Éternel », il y a une conception d'approuver, mais d'approuver celui qui est plus grand. Donc, c'est la louange. Mais quand l'Éternel nous bénit, il nous approuve, mais avec grâce, avec miséricorde, et c'est toujours la position de celui qui est plus grand. Donc, ce n'est pas tout simplement la notion de bénir quelqu'un qui établit celui qui est plus grand ou plus petit, ça dépend encore du contexte. Comme nous avons vu autrefois, un peu plus tôt, la notion de fils n'établit pas que le Fils de Dieu est plus grand que les anges, parce que, après tout, les anges eux-mêmes peuvent être nommés fils, comme chez Job. Ça dépend du contexte. Pareillement ici, dans le contexte où Abraham reçoit la bénédiction de Melchisédek, et Melchisédek prononce « Béni soit Dieu très haut, béni soit Abraham », et ainsi de suite. Et ensuite, Abraham lui donne la dîme, c'est bien évident qui est le plus grand dans cette relation. Mais ce n'est pas tout simplement une question de comprendre « bénir », mais « bénir » dans son contexte. Et à ce point, ce que l'auteur établit en effet, c'est que, premièrement, Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Deuxièmement, comme sacrificateur en effet, il est sacrificateur plus grand qu'un sacrificateur du tribu de Lévi, parce qu'on revient encore à ce modèle de comprendre qui est grand, qui n'est pas grand, selon la seigneurité, comme nous avons examiné hier soir. Ensuite, les deux versets les plus importants de ce chapitre, 11 et 12. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, et laisse à côté les prochains mots pour un instant, nous y reviendrons, quel besoin y avait-il encore d'un autre sacrificateur, paraît-ce selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? C'est-à-dire, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit Psaume 110, parce que Psaume 110 introduit de nouveau Melchisédek, sacrificateur, après l'établissement du sacerdoce de Lévi. C'est-à-dire, on commence avec Melchisédek, Genèse chapitre 14, et Abraham. Lévi n'est pas encore né. Des siècles passent. Ensuite, on arrive à Moïse, l'ancienne alliance, Lévi, son rôle de sacerdoce, de sacerdoce, surtout dans la famille d'Aaron, le souverain sacrificateur, et des siècles passent encore, et vers le 10e siècle avant Jésus-Christ, maintenant, une annonce d'un autre sacrificateur, c'est-à-dire Melchisédek. Mais si le sacerdoce d'Aaron, de Lévi, suffisait, pourquoi donc en ajouter un autre? Ça, c'est l'argumentation. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, quel besoin y avait-il encore d'un autre sacrificateur, paraît selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car, lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Maintenant, à ce point, cette conclusion est basée sur les mots que j'ai laissés à côté dans verset 11. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore d'un autre? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi, c'est-à-dire, si toute la structure de la loi est basée sur le sacerdoce, si nous changeons le sacerdoce, il faut changer la loi. Maintenant, ce n'est pas comme cela, il me semble, que nous estimons l'ancienne alliance ou la notion de loi, n'est-ce pas? À partir de Thomas d'Aquin, et ensuite on le trouve chez Calvin et dans les églises protestantes en général, on trouve des racines même dans les pères patristiques, mais ce n'est pas bien établi avant Thomas d'Aquin. Nous avons une division en trois de la loi, c'est-à-dire la loi morale, la loi civile et la loi cérémoniale. Et en général, malgré le fait qu'il y a mention de ces trois sortes de lois dans les pères de l'Église, c'est chez Thomas d'Aquin que nous apprenons que cette analyse devient en effet la base du système de continuité ou de décontinuité entre les testaments. C'est-à-dire, la loi civile est terminée avec Jésus-Christ parce que la loi civile présuppose que le peuple de Dieu est une nation. Maintenant que le peuple de Dieu n'est plus une nation, mais l'Église internationale, donc on n'a plus besoin d'une loi civile, pour ainsi dire. La loi cérémoniale, maintenant, est terminée parce que les cérémonies de l'ancienne alliance, maintenant sont accomplies en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre prêtre. C'est lui qui est notre sacrifice. C'est lui qui offre sa propre vie Yom Kippour, le jour de sacrifice. Donc, c'est seulement la loi morale qui continue. Par définition, c'est la loi morale qui continue. Donc, la loi qui est la plus importante de l'ancienne alliance, selon notre perception aujourd'hui, c'est la loi morale, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons Exode, et Lévitique surtout, nous apprenons assez rapidement que des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres sont donnés à la construction du tabernacle et comment créer un prêtre et ce qu'ils doivent porter et comment nettoyer une maison qui a une tache et quoi faire avec de toutes sortes d'impuretés et c'est-à-dire la loi cérémoniale partout, la loi du sacerdoce. Ça nous surprend, n'est-ce pas, quand de notre point de vue, c'est la loi morale qui est importante. On revient toujours à Exode chapitre 20, mais Lévitique, c'est un peu difficile, hein? C'est pour les super chrétiens, mais franchement, je préfère Exode 20. Mais pour un juif du premier siècle qui voulait comprendre ce qui est central, ce qui a une importance centrale dans l'Ancienne Alliance, c'était bien évident que c'était le tabernacle et plus tard le temple, le système de sacrifice. C'était par ces moyens, après tout, qu'on s'approchait de Dieu. Et c'est ça qui est la conclusion de l'écrivain ici. C'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Donc, ce n'est pas que la loi, c'est la loi morale, et on y ajoute un peu de loi cérémoniale qu'on peut facilement ôter, ou au centre, il y a la loi morale, on peut arracher la loi civile ou la loi cérémoniale sans blesser ce qui est au centre. C'est plutôt la loi du sacerdoce, la loi des prêtres, la loi de sacrifice, la loi du tabernacle qui est au centre. Et donc, si nous changeons le sacerdoce, il faut changer l'alliance. Il faut changer la loi. C'est pour cette raison que ces deux versets ont une importance suprême dans ce chapitre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi, c'est-à-dire la loi alliance. L'alliance de loi doit changer. Donc, c'est pour cette raison que Psaume 110 est cité si souvent dans le Nouveau Testament, car c'est Psaume 110, le chapitre le plus souvent cité dans le Nouveau Testament et le chapitre le plus souvent cité chez Hébreux. C'est Psaume 110 qui souligne, après tout, que même après l'établissement du sacerdoce lévitique, ça prend un autre sacerdoce. C'est remarquable, n'est-ce pas? Donc, verset 13, « En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles, c'est-à-dire les paroles de Psaume 110, est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisédek, notez bien, la ressemblance qui nous fait souvenir du mot semblable, plutôt, à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas mention de la mort de Melchisédek devient une espèce de typologie qui annonce le fait que le vrai Melchisédek, le Melchisédek ultime, ne meurt jamais. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, revenons encore une fois à Psaume 110. Nous l'avons lu déjà deux fois. Il faut y revenir. Psaume 110. Nous avons déjà remarqué comment Jésus fait appel à ce psaume. Il utilise ce psaume dans Matthieu 22. Il présuppose que c'est écrit par David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, que le Seigneur doit être le Messie dans un contexte. Il y a deux oracles ici et une exposition des deux oracles qui suit dans chaque cas. Premier oracle, à mon Seigneur, c'est-à-dire de l'Éternel au Messie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Eh bien, comment comprendre cela? L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc, ce qui est en vue, c'est le roi Davidique, le roi qui a son trône à Sion. Encore une fois, c'est un peu comme 2 Samuel chapitre 7, verset 14, comme psaume 2, c'est l'Éternel qui établit son fils, son roi. Domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée, et ainsi de suite. Deuxième oracle, verset 4, l'Éternel l'a juré, et ne le regrettera pas, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Encore, c'est l'Éternel qui s'adresse au Messie, à celui qui est nommé Seigneur par David lui-même. Et il annonce que ce David, ce roi davidique, est à la fois sacrificateur, non selon l'ordre de Lévi. Ça serait impossible, parce que lui-même, s'il est roi davidique, il doit venir de la tribu de Juda. Mais l'annoncer comme prêtre, le sacerdoce sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est une question extraordinaire, n'est-ce pas? Et sans doute, c'était pour les raisons que j'ai mentionnées hier soir. C'est-à-dire, David se souvient de ces textes dans Genèse. Le premier roi mentionné dans la Bible, le premier roi de Salem, la ville qui devait être appelée Jérusalem, était à la fois roi et prêtre. Comme David lui-même ne pouvait pas l'être. Et David voit par les yeux de la foi, donné par l'inspiration sans doute de l'Esprit, un jour, un de ses successeurs, un membre de sa descendance qui serait à la fois roi davidique et qui reprendrait le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Autrement, pourquoi est-ce que Dieu a inclus ces trois versets dans Genèse chapitre 14? Comme nous avons vu hier soir, si on note ces trois versets, le texte fait assez bon sens, n'est-ce pas? Si on lit Genèse 14, 17 et on suit cela par Genèse 14, 21, le texte fait du bon sens. Pourquoi donc est-ce que Dieu a inclus ces trois versets? Oui, ça nous donne un contraste, deux personnes opposées, Sodome et Melchisédek, mais en plus, ça annonce quelque chose. Ça annonce quelque chose. Et c'est l'Éternel lui-même qui jure qu'il ne le regretterait jamais. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Eh bien, il y a d'autres choses qu'il faut remarquer dans Hébreux chapitre 7, mais à ce point, il faut aller à côté pour un petit bout de temps. Ce que nous avons fait à travers ces quelques heures, c'est d'examiner comment le Nouveau Testament, en ce cas, l'Épître aux Hébreux utilise les textes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Comment ce texte les comprend? À travers les dernières quelques décennies, un grand nombre des érudits bibliques ont écrit des livres sur cette question. Quels sont les principes de citation que nous trouvons dans le Nouveau Testament? Quelle est l'herméneutique de Jean ou de Luc ou de Paul ou de l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Comment est-ce que leur herméneutique fonctionne en comparaison, par exemple, avec l'herméneutique des Juifs non convertis du premier siècle? Est-ce que c'est le même herméneutique en effet, ou est-ce que c'est différent? Ou mettre ça dans une autre guise, est-ce que l'herméneutique de l'apôtre Paul avant sa conversion était le même herméneutique qu'il adoptait après sa conversion? Quand l'apôtre Paul lisait ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible, pour lui la Bible, avant le chemin à Damas, est-ce qu'il lisait cette Bible de la même façon, de la même manière, avec les mêmes principes d'interprétation qu'après sa conversion? Et s'il a changé son herméneutique, quels sont ces changes? Quels sont ces changements? Et s'il n'a pas changé son herméneutique, son système de compréhension, d'interpréter les textes, comment se fait-il qu'il en tire des compréhensions, des interprétations tellement différentes qu'on trouve chez les Juifs non convertis? Donc, un grand nombre de livres ont été écrits à ce sujet et la majorité souligne surtout comment les principes d'interprétation pour les chrétiens étaient semblables, même pareils, on dit, que les principes que nous trouvons chez les Juifs. Par exemple, les Juifs avaient, surtout parmi les rabbins, ils avaient des règles d'interprétation que nous appelons aujourd'hui en hébreu les midot. Les midot. Quelques rabbins parlait de 7 midot, d'autres de 10 ou 11 ou même 13 midot. Par exemple, un de ces midot, on l'appelle Kal Vahomer, c'est-à-dire ce qui ne pèse pas beaucoup et ce qui pèse beaucoup. The light and the heavy. Light? Le léger et le lourd. Voilà. C'est une espèce d'argumentation a fortiori. Si ceci, comment donc plus cela? Et on trouve cette argumentation non pas tout simplement chez les Juifs, mais dans chaque culture. Mais il y a d'autres points dans leur midot qui sont plus juifs que d'autres, Mais la question revient. Si on examine chaque texte de l'Ancien Testament que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et à maintes reprises, nous insistons que les principes d'interprétation pour Paul ou pour Luc ou pour l'Épître aux Hébreux, les principes d'interprétation sont pareils à ces principes d'interprétation qu'utilisaient les Juifs non convertis, comment se fait-il que les conclusions sont si différentes? À mon avis, il y a 3 ou 4 différences importantes. Et dans cette série, je vais mentionner seulement une de ces différences. Et peut-être ça serait plus facile pour aborder cette question de laisser à côté l'Épître aux Hébreux pour un instant et nous allons examiner ensemble Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, parce que les différences que j'ai en vue ne se trouvent pas tout simplement chez Hébreux, mais on les trouve assez souvent dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 3, Dans ce chapitre, l'apôtre Paul examine la place de la loi, n'est-ce pas? Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc, dans ces premiers quelques versets, l'apôtre Paul fait appel à leur propre expérience. Comment se sont-ils convertis? Comment est-ce qu'ils ont découvert la connaissance de Dieu? En obéissant à la loi, ou plutôt par la puissance de l'Esprit de Dieu sous l'autorité de l'Évangile? C'est un appel à leur expérience. Mais ensuite, il fait appel à l'Ancien Testament. N'est-ce pas vrai? Il dit que ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible, enseigne exactement la même chose. Commençons, il dit, avec Abraham. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ça, c'est la notion de fils que nous avons déjà examinée. De même façon que ceux qui procurent la paix sont fils de Dieu, parce qu'ils agissent comme Dieu à cet égard, et ceux qui racontent des mensonges sont fils du diable, parce que le diable lui-même est menteur. Matthieu 5, Jean 8. De même façon, les vrais fils d'Abraham sont ceux qui démontrent la même foi qu'Abraham. Ce ne sont pas tout simplement sa descendance biologique, mais plutôt ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est pour cette raison que Paul peut en tirer cette conclusion. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. À quoi bon donc la loi? Maintenant, si nous nous approchons d'un juif conservateur du Palestine dans le premier siècle, et nous lui posons cette question, nous savons comment il répondrait. Comment faut-il plaire à Dieu? Il répondrait, en observant la loi. Comment Daniel a-t-il plu à Dieu? En observant la loi. Comment Ésaïe a-t-il plu à Dieu? En observant la loi. Comment Ruth a-t-elle plu à Dieu? En observant la loi. Comment Moïse a-t-il plu à Dieu? En observant la loi. Comment Abraham a-t-il plu à Dieu? En observant la loi. Wow, wow, wow. Abraham? Mais la loi n'avait pas encore été donnée. Bon, ça ne fait rien. Nous savons comment nous plaisons, comment il faut plaire à Dieu. C'est en observant la loi. Et Genèse nous dit que Abraham a obéi à tous les statuts que Dieu lui avait donnés. Après tout, c'est ça que le texte dit, et nous savons ce que c'est les statuts de Dieu. C'est la loi. Donc, il faut croire que Dieu avait donné à Abraham une révélation de la loi d'avance. Enoch, comment est-ce qu'il a plu à Dieu? En observant la loi. Enoch, le septième d'Adam? Oui, mais Il a marché avec Dieu. Et la notion de marcher avec Dieu, il s'est promené avec Dieu. Et nous savons que cette notion touche la question de conduite. Sans doute, s'il a plu à Dieu à cet égard, c'était parce que Dieu lui avait donné une révélation de la loi et il a plu à Dieu, il a obéi à la loi et donc il a plu à Dieu, puis Dieu l'a pris. Qu'est-ce que nous faisons quand nous interprétons l'Ancien Testament comme cela? Nous élevons la loi jusqu'à la position de contrôler toute l'exégèse. Nous ne lisons plus l'histoire de l'Ancien Testament dans ses développements, mais nous élevons le principe de loi, la priorité de loi, pour que la loi devienne en effet le contrôle de la théologie systématique des Juifs, pour ainsi dire, malgré le fait qu'il n'avait vraiment pas une théologie systématique qu'on reconnaîtrait aujourd'hui. C'est-à-dire, la loi devient non pas tout simplement la révélation centrale de l'Ancien Testament, mais l'herméneutique qui contrôle l'interprétation de tous les autres textes. Ce que nous perdons par cette herméneutique, c'est l'histoire. C'est la reconnaissance du fait qu'il y a des développements, qu'il y a des avant et des après, des personnes avant la loi, des personnes qui arrivent sur le tableau d'histoire après la donnée de la loi. On perd cela. Et donc, les relations entre Abraham, par exemple, et Moïse changent. Parce que la loi, maintenant, est tellement élevé que ça contrôle notre interprétation de la foi, de l'obéissance, de la bénédiction d'Abraham et aussi d'Enoch. Mais ce que nous trouvons chez Paul, plutôt, c'est le fait que il lit l'Ancien Testament utilisant les outils de l'histoire. Il n'oublie jamais qu'il y a une histoire et donc il ne peut pas élever la loi à la même position que font les Juifs. Donc ici, dans ce chapitre, il mentionne Abraham qui avait été justifié par la foi avant que la loi soit donnée. Et donc, il faut qu'il élève la question, pourquoi donc la loi? Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? Il pose la question, par exemple, dans verset 19, pourquoi donc la loi? Si les hommes, comme Abraham, avaient été justifiés déjà par la foi, pourquoi ajouter la loi? Qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas donc la loi qui justifie les personnes, ou au moins qui est nécessaire pour la justification, si Abraham a été justifié avant le don de la loi. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire la promesse que dans lui, c'est-à-dire Abraham et sa descendance, toutes les nations seront bénies. Et donc, dans cette descendance, il y a une promesse à Abraham qui bénit toutes les nations. Mais jusqu'à la venue de cette descendance, la loi avait été donnée à cause des transgressions. C'est-à-dire, probablement cette expression « à cause des transgressions » a deux points en vue. Pour limiter les transgressions, en effet, mais à la fois pour rendre le péché transgression. Là encore, il y a de grandes implications. Comment est-ce que ce chapitre est compris assez souvent dans des cercles protestants aujourd'hui? Pas dans tous cercles, mais assez souvent. On arrive vers la fin de ce chapitre et nous lisons que, verset 24, « La loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ et nous sommes tentés à interpréter ce verset dans un sens personnel et psychologique. » Comment est-ce qu'on arrive à Christ? Mais il faut comprendre que nous sommes perdus. Si nous allons demander d'être sauvés, il faut savoir que nous sommes perdus. Si nous voulons demander la grâce pour le pardon, il faut connaître que nous sommes coupables. Avant de demander la vie, il faut savoir que nous sommes condamnés à la mort. Donc, ce que la loi nous donne, c'est la connaissance de notre danger. C'est dans cette manière que la loi nous conduit vers le Christ, n'est-ce pas? Et donc, à travers l'histoire, assez souvent, nous apprenons dans plusieurs groupes que pour bien prêcher l'Évangile, il faut commencer avec la loi. Par exemple, chez Wesley, dans une de ses lettres, j'oublie le numéro 137 à peu près, ou 134, quelqu'un lui pose la question, comment prêcher l'Évangile quand on arrive à un nouvel endroit? Comment prêcher l'Évangile? Il dit, quand j'arrive à un nouvel endroit, un nouveau village pour prêcher l'Évangile, je commence avec une déclaration générale de l'amour de Dieu. Ensuite, il dit, « Je prêche la loi. » Parce que je veux que les hommes sachent qu'ils sont sous la condamnation de Dieu, qu'ils sachent qu'ils sont perdus. Autrement, la bonne nouvelle n'est pas la bonne nouvelle. Donc, il faut prêcher la loi. Et quand je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes dans la foule qui commencent à pleurer, à cause du fait qu'ils sachent maintenant qu'ils sont condamnés devant Dieu. Je prêche encore la loi. Et quand il y a un assez grand nombre de personnes qui pleurent et demandent quoi faire pour être sauvées, j'introduis, il dit, un petit peu de grâce. Et quand presque toute la foule est à genoux, en larmes, criant à Dieu pour la miséricorde. Là, il dit, je prêche la grâce librement, généreusement. Je prêche la grâce librement, généreusement. Et ensuite, j'introduis assez vite la loi, afin que les hommes ne présument pas. Pardon? Oui, afin qu'ils ne deviennent pas présomptueux. Maintenant, ça c'est le point de vue des puritains. Ça, ce n'est pas inventé avec Wesley. Ça c'est aussi le vue des puritains. Si on demandait à un puritain, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Un puritain répondrait, la loi, la grâce, les illustrations des deux. Et dans un certain sens, ils ont raison. J'aime les puritains. Mais il n'y a pas de mention de l'histoire, de développement, de promesses et accomplissement. C'est une théologie abstraite. La loi, la grâce, les illustrations des deux. Et donc, Galates chapitre 3, dans ce contexte, est compris comme si la loi nous conduit vers le Christ dans un sens personnel et psychologique. Comment fonctionne la loi? Ça nous prend la loi pour nous rendre véritablement condamnés. Et quand nous savons que nous sommes condamnés, là nous sommes prêts pour entendre l'Évangile, la bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, quand il n'y a pas une grande connaissance de notre faillite devant Dieu, il n'y a pas une grande connaissance de notre place devant Dieu, de notre culpabilité devant Dieu, un assez grand pourcentage de leaders enseignent encore que nous devons souligner la loi. C'est la loi qui nous conduit vers le Christ. Il y a quelque chose de bon dans cela. Mais, ce n'est pas le sujet de Galates chapitre 3. Parce que Galates chapitre 3 ne nous donne pas la psychologie de conversion personnelle, mais l'histoire du salut. La question de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3, ce n'est pas comment fonctionne la loi dans la conversion de l'individu, mais quelle est la fonction de la loi dans l'histoire du salut? C'est-à-dire l'herméneutique de l'apôtre Paul, en comparaison avec l'herméneutique des rabbins du premier siècle, n'élevait pas la loi à la place où ça contrôlait comment interpréter tout l'Ancien Testament, toute l'Ancienne Alliance. Mais plutôt, l'apôtre Paul insiste que pour bien comprendre l'Ancien Testament, il faut suivre l'histoire. Et si nous suivons l'histoire, nous nous rendons compte du fait que, avant la donnée de la loi, il y a Abraham. Abraham, un homme justifié par la foi, sans la loi, à qui a été donnée une promesse que dans sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et donc, ça élève une autre question, pourquoi donc la loi? Et à travers les écrits de l'apôtre Paul peut donner bien des réponses à cette question. Il ne donne pas toutes les réponses ici dans Galates chapitre 3, mais en partie, c'est pour limiter le dommage, c'est pour rendre le péché transgression. Dans ces sens, la loi nous amène, nous conduit vers Jésus-Christ. En plus, la loi nous donne le système de sacerdoce, nous donne des exemples après des exemples de ce que ça veut dire d'être saint, comment être purifié, que fait un prêtre, à quoi bon donc le tabernacle, le temple. Donc, dans ce sens aussi, la loi nous prépare pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, dans l'application à nos vies, pour bien comprendre Jésus-Christ, il faut véritablement comprendre comment nous sommes perdus. Et comment Jésus lui-même, comment Dieu lui-même s'adresse à notre perte. Et il s'adresse à notre perte avec le sacrifice. Avec un temple, avec un sacrifice, avec un agneau, avec un bout, avec un temple ou un tabernacle, avec le versement de sang. Oui, c'est toute la préparation pour l'Évangile, sans doute. La loi nous conduit vers le Christ. Et donc, aujourd'hui aussi, pour bien comprendre l'Évangile, il faut retourner à l'Ancien Testament. Dans ce sens, les puritains et Wesley n'avaient pas tort. Dans un certain sens, pour bien comprendre l'Évangile, il faut comprendre ce qui vient d'avance, n'est-ce pas? Mais si c'est seulement une question de psychologie ou de l'individu, ce que nous manquons dans notre analyse, c'est la suite de l'histoire, la trajectoire de l'histoire, et donc comment la Bible se met ensemble, comment les portions de la Bible se mettent ensemble. C'est pour cette raison que nous trouvons chez Paul, non pas tout simplement une christologie qui apparemment accomplit la loi, mais une christologie basée sur Abraham et une christologie même adamique. Pour les Juifs, toute chose fait le tour de la loi. Toute chose revolves around, tourne autour de la loi. Mais pour Paul, qui lit la succession des événements à travers la trajectoire de l'histoire, Il a en effet un autre herméneutique que l'herméneutique des rabbins qui répondent seulement à la question « Comment plaire à Dieu ?» avec la réponse « Il faut obéir à la loi. » C'est-à-dire, la différence herméneutique, c'est la différence de comprendre l'histoire elle-même d'une certaine façon. Et nous avons déjà découvert exactement la même argumentation, si vous vous souvenez, dans Hébreux chapitre 3 et 4. Dans Hébreux chapitre 3 et 4, comme nous avons vu hier, l'auteur cite le psaume 95 pour démontrer que, malgré le fait qu'un grand nombre de Juifs avaient été entrés, étaient entrés dans le pays promis, sous la direction de Josué, ça ne peut pas être le repos final, parce que longtemps après cette entrée, Dieu dit encore dans Psaume 95, aujourd'hui si vous vous repentez, si vous n'endurcissez pas votre cœur, vous pouvez entrer dans mon repos. Autrement, je jure que vous n'entrerez jamais dans mon repos. Maintenant, cette espèce d'interprétation dépend du fait que Psaume 95 avait été écrit après l'entrée au pays promis. Et ça fait partie de cet établissement d'une trajectoire de repos, d'une doctrine de repos. Maintenant, nous avons encore une trajectoire en ce qui concerne le sacerdoce. Psaume 110, au temps de David, selon Jésus lui-même, a été écrit dans le temps de David et après l'établissement du sacerdoce de Lévi. Maintenant, si vous acceptez les théories contemporaines des dates de l'Ancien Testament, il y a bien des personnes qui disent aujourd'hui que la loi, la notion de la loi a été inventée vers le 6e siècle. Et même il y a quelques minimalistes aujourd'hui qui insistent que la loi, telle que nous la trouvons dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, avait été écrite seulement dans le temps des Perses, the Persians, les Perses. 4e siècle. Si nous acceptons ces théories minimalistes, ça veut dire que le psaume 110, même si ce n'avait pas été écrit par David, avait été écrit avant les promesses, avant la loi, c'est-à-dire. En ce cas, les conclusions de l'auteur aux Hébreux ne feraient pas du bon sens du tout. Donc, tout d'un coup, nous nous apprenons que notre compréhension de la fidélité, de la précision de l'Ancien Testament et notre compréhension de la suite de l'histoire, de la trajectoire de l'histoire de l'Ancien Testament sont liés ensemble. Hein? Donc, vous prenez des cours qui vous donnent les dates et tout cela, des livres des Anciens Testaments, et vous vous dites... À quoi bon tout cela? Après tout, je veux tout simplement prêcher, savoir quand Ésaïe a été écrit, ça ne vaut rien, franchement. Ça vaut de quoi? Parce que ça établit comment, en effet, l'Ancien Testament a créé l'histoire. Et une des différences du point de vue herméneutique entre la façon d'interpréter l'Ancien Testament chez Paul ou chez les autres écrivains du Nouveau Testament, comme cet auteur de l'Épître aux Hébreux, et les systèmes d'interprétation de l'Ancien Testament qu'on trouve chez les Juifs, c'est l'importance de l'histoire. Eh bien, question avant d'aller plus loin. Quand il n'y a pas de question, ça signale soit que c'était tellement clair qu'il n'y a pas de question à poser, soit que c'était tellement difficile à comprendre qu'on ne sait pas quoi poser. L'homme Melchisédek dans l'Ancien Testament, autant que je peux voir, c'était un homme monothéiste qui était en réalité roi-prêtre d'un petit village avec le nom de Salem, qui avait relation avec Abraham. Il a béni Abraham, il a reçu la dîme d'Abraham, il avait la foi dans El Elyon, Dieu très haut, un homme fidèle dans son temps. Il n'était pas membre de la famille d'Abraham, mais après tout, dans l'Ancien Testament, même des siècles plus tard, il y avait des personnes qui étaient converties, pour utiliser un mot du Nouveau Testament, qui étaient fidèles à Dieu, qui étaient sauvés, qui ne faisaient pas partie du monde juif, hein? Comme les personnes qui se sont converties sous le ministère de Jonas, par exemple, ou Ruth elle-même, qui était moabite. Et de même façon, Melchisédek, il me semble, est un homme comme cela. Mais en plus, si nous examinons comment Melchisédek fonctionne dans le contexte de Genèse 14, c'est un homme rare. Plus important qu'Abraham, mais quand même, on lui donne seulement 3 versets. Et sans père, sans mère. Est-ce qu'il y a quelque chose de symbolisme dans cela? De typologie? Pourquoi est-ce que ces versets sont inclus? On pourrait les arracher et le texte ferait du bon sens. Pourquoi donc sont-ils là? Et donc, dans le temps de David, après l'établissement de la loi, après l'établissement du sacerdoce lévitique, Dieu, l'Éternel lui-même, jure qu'un roi davidique, le Messie, est aussi prêtre, pas Melchisédek lui-même, mais prêtre selon son ordre. C'est-à-dire un ordre différent que l'ordre lévitique, où il fallait être membre de la tribu de Lévi. Être prêtre selon l'ordre de Melchisédek voulait dire roi-prêtre. Roi-prêtre, tiré de Sion ou Salem, Jérusalem. Roi-prêtre, juré par Dieu, qui annonce en effet que le sacerdoce de Lévi n'était pas suffisant. Et si le sacerdoce de Lévi n'était pas suffisant, donc toute la structure de l'ancienne alliance était déjà condamnée à la ruine. Et Jésus donc arrive comme l'accomplissement de Melchisédek, l'accomplissement de cette promesse. De même façon qu'il est l'accomplissement de l'agneau de la Pâque. Ce n'est pas qu'il est un agneau littéral, mais il est lui-même l'accomplissement de cette façon de parler, de ce modèle, de cette fête. Bonne question, bonne question. Et c'est une question qui n'est pas facile. C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Il y a des personnes qui disent tout simplement, après tout, la Bible a 2 auteurs. L'auteur humain et Dieu lui-même. Et des fois, nous reconnaissons les intentions de Dieu, même si l'auteur humain n'avait pas toutes ses intentions. Mais de parler ainsi est dangereux. Ce n'est pas complètement faux, j'y reviendrai, mais c'est dangereux. Parce qu'après un petit bout de temps, ce qu'entendent les auteurs humains, c'est une chose, ce qu'entend apparemment Dieu est une autre chose. Comment est-ce que les lecteurs contemporains doivent faire la différence? Est-ce que ça prend un clé ésotérique? Et tout d'un coup, on ouvre la porte à toutes sortes de formes d'abus. Hein? Il n'y a pas de main. Mais l'Esprit Saint m'a montré comment ce texte veut dire cela dans le cœur de Dieu. C'est ce qui a compris. Comment répondre à cela? Le participe ne veut pas dire cela? Et donc, c'est dangereux de faire appel à l'intention de Dieu, distancé de l'intention des personnes humaines. Quand même, il y a des exceptions. Comme nous avons remarqué hier soir, des fois, Dieu donne une espèce de dictée, un oracle, à un Daniel qui admet qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'était donné pour le bien des lecteurs qui viendraient des générations plus tard. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut comprendre les intentions de Daniel pour comprendre tous les oracles que Daniel nous a donnés. Dans ces cas, c'est bien mieux d'essayer tout simplement de comprendre les oracles, si c'est possible. Et des fois, ça va nous donner des compréhensions que le pauvre Daniel n'avait jamais reçues parce qu'il a vu sa vie, il a vécu sa vie, il a vécu dans un temps beaucoup trop tôt dans la trajectoire de l'histoire pour mettre ses oracles en place, pour ainsi dire. Et je dirais aussi que dans la suite de typologie, il y a des ambiguïtés semblables. En général, je rejette la distinction entre les intentions de Dieu et les intentions humaines, car Dieu utilise les mots, les paroles, les circonstances, les expériences des êtres humains. Et c'est pour cette raison que le vocabulaire, le style de Jérémie n'est pas le style, le vocabulaire d'Ésaïe. Le vocabulaire, le style de Matthieu n'est pas le style, le vocabulaire de l'apôtre Paul. Dieu, dans sa souveraineté, utilise le vocabulaire, l'expérience, les termes des écrivains individuels. Le mode, donc, d'inspiration est plutôt rarement la dictée, tout simplement. Le dictée, la dictée. Quand même, avec la typologie, il y a une autre chose à reconnaître, c'est-à-dire, dans la typologie, on commence une ligne de développement. Par exemple, ce que c'est un fils, qu'est-ce qui est accompli par le temple, comment fonctionnent les prêtres. Et si un écrivain humain se trouve vers la démarche de cette typologie, peut-être il ne comprend presque rien d'où ça va aller. S'il se trouve un peu plus tard, peut-être il va reconnaître que lui, son œuvre est basée en partie sur l'œuvre de quelqu'un qui était venu d'avance, et peut-être il comprend au moins un peu comment il y a une trajectoire qui commence à s'établir. Quand on arrive au Nouveau Testament, il y a toute une trajectoire à comprendre, vous voyez. Et à ce point, nous voyons que Dieu lui-même savait dès le début que cette trajectoire typologique était là. C'était l'intention de Dieu lui-même, même si Moïse ne le savait pas. Donc, David, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il comprenait véritablement qu'un de un des membres de sa descendance devait être roi-prêtre? Maintenant, si nous prétendons que Psaume 110 était seulement un oracle dicté par Dieu, ce n'est pas nécessaire d'en tirer la conclusion que David savait véritablement ce qu'il écrivait. C'est possible, c'est arrivé avec Daniel. Mais si Psaume 110, sans doute inspiré par Dieu, mais dans l'expérience de David, fait partie d'une réflexion, d'une méditation sur le fait qu'il est maintenant le roi à Jérusalem. Et selon 2 Samuel 7, que nous avons examiné hier, 2 Samuel 7 suit 2 Samuel 6, qui nous enseigne que le tabernacle, pour la première fois, est dans la même ville du roi. Et le premier roi de Salem était un roi prêtre, Melchisédek. Et il sait bien, David, à ce point, à cause de 2 Samuel 7, il sait bien que Dieu a établi une dynastie pour lui, pour le bien du monde, de son peuple, à perpétuité. À quoi bon donc la mention de Melchisédek dans Genèse 14? Peut-être ça va revenir encore. Jérusalem, tabernacle dans Jérusalem, le roi maintenant dans Jérusalem, Salem. Peut-être il a commencé à comprendre qu'encore une fois, dans sa descendance serait un membre qui était à la fois roi prêtre, même si ça ne pouvait jamais arriver sous la structure de l'Ancienne Alliance, où seulement les membres de la tribu de Lévi pourraient être prêtres. Est-ce qu'il a tout compris, tout ce que nous comprenons aujourd'hui sous la structure de la Nouvelle Alliance? Non, pas une seule chance. Est-ce que quand même il comprend un peu cet héritage? Je prétends qu'il comprend beaucoup plus que l'auteur de Genèse 14. Hein? Donc, Dieu voit ce qui va arriver. Dans ce sens, il faut faire application, il faut faire attention à l'intention de Dieu à travers l'histoire. Et sans doute, les écrivains humains, quand une typologie est suffisamment développée, là, ils commencent à comprendre eux-mêmes aussi. Mais ils n'ont pas toute la compréhension de ce que nous savons à la fin de cette typologie, ou vers l'accomplissement de cette typologie. Je reviendrai à ce point après la pause.